Nathan, tu vas lire pour moi 1 Pierre chapitre 2. Tu peux venir là. 1 Pierre 2.
Débarrassez-vous de toute méchanceté, de toute ruse, de toute hypocrisie, l'envie et de médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion.
Merci. Bon. Pierre, on est assez confiant que c'est Pierre qui a écrit ce lettre. C'est un des seuls épîtres et livres qu'il n'y a pas trop de débat sur qui a écrit la lettre. Quand j'ai lu, en préparant le message aujourd'hui pour enseigner, quand j'ai lu cette lettre en entier, je l'ai lu plusieurs fois, ce qui m'a frappé, c'est quand Pierre a écrit ça, il écrivait à une église qui était... sous la pression, c'est une église qui était... le moment, c'était le règne de Néron, on connaît tous Néron, que c'était quelqu'un qui n'aimait pas trop les chrétiens. La pression était énorme sur l'église. L'église était le beau commissaire de Néron pour ses bêtises, ses caprices. Donc Pierre écrivait ce lettre à une église qui était persécutée, qui devait vivre leur foi dans un contexte hostile. Et bien que nous, on ne vit pas exactement dans un contexte hostile où nous sommes persécutés physiquement, on vit dans un contexte aujourd'hui qui, des fois, on pourrait sentir que les choses changent. L'attitude vis-à-vis des chrétiens. Bon, peut-être du fait qu'en France, ça fait longtemps que les chrétiens sont vraiment la minorité dans le pays. Ce n'est pas trop le contexte, mais dans le monde, dans certains pays, au Canada d'où je viens, aux États-Unis et d'autres pays où pendant longtemps les chrétiens avaient vraiment une place forte dans la société, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, les chrétiens sont vus comme des gens qui ne sont pas nécessairement bien. C'est des gens avec des avis, des attitudes qui ne sont pas gentils, aux limites, pas gentils. Et donc, l'attitude du monde vis-à-vis des chrétiens change dans nos pays occidentaux. Donc, je pense que cet épître, tout l'épître, est vraiment... Une épître où nous, on peut apprendre beaucoup de choses. On peut apprendre comment vivre dans un contexte qui est hostile à nous. Comme je dis, la lettre est écrite sous le règne de Néron par Pierre. On n'est pas sûr si quand Pierre, dans l'épître, quand il dit qu'il est à Babylone, s'il est vraiment à Babylone, aujourd'hui, c'est Irak, ou s'il est en Rome, qui est dans le Nouveau Testament, la Babylone, C'est l'image, c'est un terme pour décrire une ville vraiment terrible. Alors, on ne sait pas si c'est le vrai Babylone ou si c'est Rome, d'où il a écrit ça. Les deux sont possibles. Mais en tout cas, le contexte de ce lettre, le contexte de société est intéressant, je trouvais. Et je veux lire quelques extraits de l'histoire des historiens qui ont écrit certaines choses sur le temps. Alors, on sait que Néron est accusé d'avoir brûlé Rome, n'est-ce pas? Et qu'il a porté la blâme sur les chrétiens de l'avoir fait. Alors, voici ce que quelqu'un écrit. Et c'est quelqu'un qui écrit en 110. Donc, c'est intéressant parce que c'est que 50 ans après les faits, 40 ans après les faits. Donc, ça date de très longtemps, mais c'est un record historique très intéressant. Donc, Néron essaie de passer le blâme sur les chrétiens. Pour apaiser ces rumeurs que c'était Néron qui avait fait les choses, pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés. Pour leur abomination et que le vulgaire appelait chrétien. Ce nom leur vient du Christ, qui sous Tibère fut livré au supplice par le procurateur Pontius Pilatus. Réprimé un instant, cette exécrable superstition s'est débordée de nouveau, non seulement dans la Judée, où elle avait sa source, mais dans Rome même. Écoutez ce qu'il dit. Où tout ce que le monde enferme des infamie et de horreur afflue et trouve des partisans. On saisit d'abord ceux qui avaient avoué leur secte et sur leur révélation une infinité d'autres qui furent bien moins convaincus d'incendie que de haine pour le genre humain. Donc vraiment, on voit comment ils voyaient les chrétiens. Cette phrase-là, où il dit, l'historien dit où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. Des partisans, c'est les chrétiens. Et les chrétiens accueillent vraiment tout le monde, même les gens que la société rejetait parce qu'ils étaient. Ils n'étaient pas acceptés, ils étaient pour les citoyens, c'était une horreur, ces gens, c'était le pauvre, l'infirme et tout ça. Alors, c'est comment ils voyaient les chrétiens. Mais entendez ce qu'un autre historien dit sur le pays et sur le règne de Néron. Il constate que sous son règne, l'Empire était correctement administré, que la réforme monétaire qui revalorise le dernier profit au milieu d'affaires. Donc, il administrait bien le pays, la monnaie allait bien, la finance allait bien, que les campagnes militaires sont victorieuses, que sa politique est favorable aux régions orientale de l'Empire et qu'il a donné une impulsion importante aux évolutions artistiques dans le domaine de l'architecture et des arts décoratifs. Donc, sous Néron, l'Empire fleurissait. Mais d'un côté, ils haïssaient les chrétiens. Ça semble comme de plus en plus, comme aujourd'hui. D'un côté, on est bien, financièrement, politiquement, bon, politiquement, on n'est pas sûr, les campagnes militaires, merci Seigneur que en Europe, à ce moment, les campagnes militaires, il n'en a pas trop, que les arts et tout ce côté, ça va bien, mais d'un autre côté, les chrétiens, ils sont terribles, ils acceptent n'importe qui et c'est une race vulgaire. C'était l'attitude. Alors, les chrétiens au milieu de ça, comment vivre dans un contexte pareil? C'est la question que ces chrétiens-là, ils devaient se poser quand Pierre les écrivait. Pierre les voyait, il voyait que Dieu était en œuvre parmi eux, il voyait que les gens venaient à Christ, mais il voyait aussi que la pression était énorme que sous le règne de Néron, les gens étaient persécutés, les gens étaient torturés, les gens étaient le bouc émissaire. Commissaire de tout le mal qui arrivait dans le pays. Donc, je veux regarder que de versets aujourd'hui. Ce n'est pas beaucoup de versets, mais il y a beaucoup de choses dedans. Et c'est le comment vivre dans ce monde de paradoxes. Et d'un côté, on vit aussi, des fois, dans un monde de paradoxes aujourd'hui. Et c'est bien pour nous d'apprendre de Pierre, apprendre de Dieu et ce que Dieu dit à travers ce texte, comment vivre. On va voir que c'est d'être proche de Jésus. C'est d'être construit par lui et c'est d'être au service de Dieu. Quand on pourrait réussir à vivre dans un contexte de monde qui n'est pas toujours favorable pour nous. Ces deux versets sont versets 4 et 5 de chapitre 2. Pierre dit, « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Ces deux versets tiennent un peu une clé de vivre dans un monde qui est hostile à nous. Et comme je dis, on peut sentir de temps en temps ce courant qui est hostile à nous en tant que chrétiens. On peut sentir que le monde autour de nous n'est pas d'accord avec nos valeurs et notre manière de vouloir vivre. Dans le passé, comme j'ai dit, à un certain moment, les chrétiens avaient la côte et ils étaient appréciés et bien vus par la société. Mais malheureusement, souvent aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Juste avant que Pierre ait écrit ces versets, plus tôt dans chapitre 1, il dit, en verset 15 de chapitre 1, on va lire de 14. En enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque c'est lui qui vous a appelé et saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saint car moi, je suis saint. De vivre dans un monde qui n'est pas toujours de notre côté, qui est hostile à nous, C'est la première chose qu'il faut retenir. Et toujours, il faut le retenir. Comme Pierre dit, puisque celui que qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Donc la sainteté en nous, c'est le premier et peut-être le plus important conseil que Pierre nous donne. Mais comment vivre ça? Afin d'être saint, nous avons besoin d'être proche de lui. En verset 4 de chapitre 2, il dit « Approchez-vous de Christ ». Ça nous rappelle qu'on était autrefois, comme Pierre dit en chapitre 1, ça nous rappelle qu'on était loin. D'abord, s'il dit « Approchez-vous », c'est qu'on était aussi loin de lui. Dans notre état, avant de connaître Christ, on était complètement séparés de Jésus. Si on n'a pas Jésus dans nos vies aujourd'hui, si on n'a pas repenti de notre péché, si on n'a pas pris ce pas vers Dieu, on est loin de Dieu. On est considéré séparé de lui. On est dehors de l'accomplissement. Donc, Pierre ici, il nous rappelle de ça. En Isaïe, le prophète, il a dit, « Nous étions tous comme des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur le Christ, nos fautes à tous. » Donc, cette idée d'être séparé, c'est tout partout dans les Écritures que ceux qui ne sont pas dans le camp sont séparés. Et on est comme des brebis égarés. En fait, si on voit dans les pâturages, si on voit dans les montagnes, si on voit les troupeaux de moutons, on voit les moutons qui... En fait, ils se suivent, mais ils ont la tête baissée et ils vont là où leurs pieds les amènent et où le pâturage est vert. Donc, on était dans les montagnes il n'y a pas longtemps et on a à l'Othion et on a traversé un grand troupeau de moutons. Et c'était intéressant parce que c'était des centaines. Mais ils passaient et ils allaient dans une direction tous. Et notre fils Steven, il a essayé de se mettre au milieu d'eux pour prendre des photos. Et moi, j'ai fait le tour et j'étais devant. C'était vraiment une ligne de moutons qui partait tête baissée, comme ça. Mange. J'étais d'ici, le ventilateur, ils ne me voyaient pas. La tête baissée, ils ne se souciaient de rien, ils mangeaient. Mais ils pouvaient avoir le mouton qui, sans savoir, tête baissée, il s'en va. C'est pour ça que le berger, il a des chiens. Et qu'il envoie le chien chercher celui-là qui part de côté là où il ne devait pas aller. Donc, et l'image ici est très forte. On est comme ce petit brebis qui continue de manger, mais qui part. Qui part faire son propre truc tout seul. C'est nous, sans Christ dans nos vies. Dans un autre passage en Isaïe, Isaïe nous décrit comme ça. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. C'est notre état sans Dieu. Et ici, dans ce passage, 1 Pierre 2, Pierre nous appelle de nous approcher, à Christ. Il est déjà en train de parler aux chrétiens. Et il dit à ces chrétiens, approchez-vous à Christ. La société est contre vous. Vous êtes pressés, vous êtes cernés, vous êtes persécutés. Mais approchez-vous à Christ. C'est là où se trouve la force. C'est là où on peut trouver les ressources pour faire face à une culture hostile à nous. Jésus a dit en Matthieu 11, 28 à 30, Matthieu 11, 28 à 30, c'est une paraphrase de ce qu'on a l'habitude d'écouter. Il dit, êtes-vous fatigué, épuisé, usé, brûlé sur la religion, venez vers moi. Venez avec moi et vous récupérerez votre vie. Je vais vous montrer comment prendre un vrai repos. Marchez avec moi. Travaillez avec moi. Regardez comment je le fais. Apprenez le rythme simple de la grâce. Je ne vais pas mettre quelque chose de lourd ou mal ajusté sur vous. Restez dans ma présence et vous allez apprendre à vivre librement et légèrement. Si on s'approche à Christ, c'est le Christ qui prend tout sur lui. Il dit, marche avec moi. Travaille avec moi. Regardez comment moi je le fais. Je ne vais pas mettre quelque chose de lourd ou mal ajusté sur vous. Lorsqu'on s'approche à Christ, il nous prend. Il prend tout. Il prend tous nos défis. Il prend tout ce qu'on vit. Il prend tout ça. Il le prend sur lui. Il veut qu'on apprenne à vivre proche de lui. Et la seule manière qu'on peut faire ça, c'est de vivre d'abord dans la repentance, d'avoir un cœur de repentance de nos péchés et de garder cette relation ouverte avec lui. Car c'est lorsque le péché arrive dans nos vies, de nouveau, que ça crée des barrières, ça crée des empêchements pour Christ de œuvrer dans nos vies, tant qu'il y a le péché qui est là. Donc Dieu nous appelle de nous approcher. Il dit, approchez-vous, ne restez pas à l'écart. Et c'est la manière qu'il est dit, c'est tout le temps, approchez-vous au Christ, tout le temps. C'est pas une fois dans la vie qu'on le fait, c'est tous les jours, qu'on prend ce pas vers Jésus et on s'approche à lui. Dans ce texte, donc, il dit de nous approcher à Christ. Alors, à qui est-ce qu'on s'approche lorsqu'on fait ça? On s'approche à Jésus, mais qui c'est ce Jésus dans ce texte? Si on le lit, de nouveau, versets 4 et 5, approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alors, le Christ, il est la pierre vivante. C'est une étrange métaphore, la pierre vivante. Mais Pierre dit un peu plus tard, il dit, en effet, il est dit dans les Écritures, je mets dans Sion une pierre angulaire, une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Donc, pour nous, le Christ, il est la pierre vivante. Et pour les autres, c'est un rocher sur lequel il tombe. Un rocher pour un et une pierre vivante pour un autre. Et ça donne une image, quand il utilise ce terme, la pierre vivante, de quelque chose qui est en train d'être construit. Dieu est en train de construire quelque chose. Et c'est à travers Jésus que c'est construit. Et Dieu a mis la pierre vivante comme aussi la pierre angulaire dans ce bâtiment qu'il construit. Ce n'est pas une pierre morte, c'est une pierre vivante. Ce n'est pas juste un personnage historique, Napoléon, César, quelqu'un comme ça, qui a vécu, qui a fait des grandes choses, mais qui est aujourd'hui mort, et on peut trouver le tombeau de la personne morte. On peut aller en Palestine, et on peut peut-être trouver la grotte où Jésus était mis, mais ce grotte est vide. Aujourd'hui, c'est une pierre vivante qui est la pierre angulaire de cet édifice qui est l'Église que Dieu est en train de faire. Quand tu penses à une pierre angulaire, on ne construit plus comme ça aujourd'hui, avec une pierre angulaire, mais à ce moment-là, pour les Romains, ils posaient la pierre angulaire et c'était par rapport à cette pierre-là qu'ils faisaient tous les calculs pour les angles droits du bâtiment, pour les murs sont à plomb, c'est à travers de ce pierre-là l'angle qui mesurait si c'était à plomb. Si la pierre angulaire était mal ajustée, si c'était mal taillé, tout le bâtiment allait être soit pas carré, soit un peu le tour de Pise. Et donc, la pierre angulaire, c'était essentiel pour la construction du bâtiment. C'est comme dans le Vieux-Nice. Quand on marche dans le Vieux-Nice et on trouve ces vieilles portes, les vieilles portes qui ont une arc pour la voûte de la porte, avec dans le centre, dans l'axe de l'arc, il y a une pierre un peu en forme triangulaire qui est posée dedans. Et c'est cette pierre-là qui tient l'arc. Si tu enlèves cette pierre, tout l'arc de la porte tombe. Et c'est la même idée. C'est cette pierre-là qui tient la porte. C'est un peu aussi un genre de pierre angulaire dans la porte. J'imagine en français, il y a un autre nom pour cette pierre. Mais c'est la même idée. Ça maintient la porte. Ça maintient la structure. Toutes les forces qui pèsent dessous sont maintenues par ce petit pierre qui est là, qui prend tout en mesure. Donc, le Christ est comme la pierre angulaire pour nous. Si, dans notre idée de le Christ, de Jésus, si on n'a pas une compréhension juste de qui est Jésus, et historiquement, c'est toujours sur le personnage de Jésus que les gens, soit ils sont juste dans leur théologie et que la manière qu'ils implantent des églises, que les mouvements commencent et demeurent, sont justes, ou c'est sur le concept de qui est Jésus que ça devient des sectes. Que les témoins de Jéhovah sont les témoins pas acceptés à cause de leur compréhension de qui est Jésus. Les Mormons, c'est à cause de la compréhension de Jésus. Les musulmans ne sont pas acceptés, n'étaient pas acceptés au temps de Mohammed parce qu'ils n'acceptaient pas qui était Jésus. Ce n'était pas selon les principes établis dans les Écritures. Donc, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le centre. C'est Jésus qui est cette pierre angulaire. Donc, Dieu nous dit, approchons-nous à Jésus. Il est la pierre vivante. C'est lui qui doit être la base et le fondement de notre foi. Il était, on voit ici dans ce texte, il était rejeté. La pierre angulaire était rejetée par les hommes. Mais cette pierre angulaire était choisie par Dieu. Et cette pierre angulaire était précieuse pour Dieu. C'était pas n'importe quelle pierre angulaire, c'était la pierre que Dieu a choisie. Les Écritures nous disent qu'il était élu par Dieu, le Messie qui était si longuement attendu par la nation d'Israël. Il était précieux pour Dieu. Jésus, la pierre angulaire de l'édifice que Dieu construit et choisi par Dieu, il est précieux pour Dieu. Quand on lit Jean 3, 16, ce fameux verset d'évangélisation, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde, donc si Dieu aime le monde autant, il ne va pas donner n'importe quoi pour le monde, pour acheter le monde. Il a donné ce qui était le plus précieux pour lui. Il a donné Jésus pour le monde, que le monde revienne vers lui. Donc, cette idée que la pierre angulaire rejetée, mais choisie, est précieuse, c'est vraiment central pour nous. Quand nous nous approchons à Jésus, réaliser qui il est, combien il est important. Et même Jésus a utilisé dans ses exemples, dans les paraboles, quand il enseignait les gens, quand il parlait du royaume, comment le royaume était, il utilisait souvent l'idée d'une perle précieuse ou un trésor dans le champ précieux. Et c'est Jésus qui est ce perle. Et c'est Jésus qui est ce trésor dans le champ que lorsque la personne trouve le trésor dans le champ, il va, il vend tout ce qu'il a, il revient, il achète le champ pour avoir le trésor qui est Jésus dans le champ. Donc, approchons-nous à Jésus. Mais après, dans le texte, il dit il va de parler de Jésus comme la pierre vivante à nous appeler aussi des pierres vivantes. Et enfin, ça, c'est d'où tout ça pour moi est parti. C'était dans la réunion de l'Assemblée générale, à la fin de l'Assemblée générale, que Pierre a demandé, est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager à la fin. Et j'ai dit juste que j'avais à cœur que de nous rappeler qu'on est des pierres vivantes dans l'Église et que Mitch est une pierre vivante et Christine est une pierre vivante et Mary-Christine est une pierre vivante et Corinne et Nathan et Rodelin, tout le monde en est des pierres vivantes dans cette Église et on est tous différents. On a des dons différents. On est comme dans un bâtiment, un édifice. Quand on regarde le mur fait de pierre, chaque pierre est unique. Et chaque pierre a sa petite forme spéciale. Et c'est nous. On est chacun unique. Et on a chacun notre petit truc en nous qui nous fait unique, mais qui est précieux pour Dieu aussi. Et que nous, on fait ensemble cet édifice qui est le temple de Dieu, qui est l'Église. Et ce n'est pas le bâtiment, c'est une chose... qui n'est pas physique, c'est une chose spirituelle. Donc, Pierre nous appelle les pierres vivantes. Il nous dit, un peu plus tard, en verset 9, il dit, « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous appelait des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. C'est nous. Et c'est nous parce que on s'approche à Christ. On prend le temps, chaque jour, de nous approcher à Jésus, d'être près de lui. Et c'est comme ça qu'on est un peuple choisi. C'est comme ça qu'on est des prêtres royaux. C'est en nous approchant à Christ tous les jours, le résultat, c'est qu'il y a une transformation qui se passe. L'apôtre Paul a dit, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, Romains 12, 1 et 2, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Mais ce que je veux souligner là, c'est l'idée d'être transformé. Il dit d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant. C'est une autre manière de dire, approchez-vous à Christ tous les jours et soyez transformés par la présence de Jésus dans vos vies. Et encore, on n'est pas juste des pierres mortes, on est des pierres vivantes. Et enfin, nous faisons partie d'un édifice vivant qui est en train de grandir, de prendre place dans ce monde. Et alors, donc, on vient à le deuxième point. On a dit, la première façon de vivre dans un contexte hostile à nous, c'est d'être proche du Christ. Donc, le deuxième, c'est d'être construit par le Christ. Il dit, laissez-vous édifier. C'est un choix. Laissez-vous édifier. On peut choisir de ne pas être édifié. On peut choisir d'être édifié. Et Pierre nous exhorte ici. Il dit, laissez-vous édifier. Si vous voulez vivre dans ce contexte où Néron est contre vous, où vous êtes persécuté, où vous êtes capturé, où vous êtes emprisonné, torturé, si vous voulez vivre dans ce contexte-là, il faut être proche de Christ et après, il faut que vous vous laissiez être construit par lui. Donc, la première idée de s'approcher à Christ était une idée de le faire continuellement, jour après jour. Ce n'est pas une fois pour tout, mais c'est tous les jours. Et cette idée maintenant de laissez-vous édifier, c'est aussi continuellement d'être édifié par la présence de Jésus dans nos vies. Ce n'est pas une fois, mais c'est tous les jours. Le travail en moi n'est jamais fini. Ça fait 26 ans qu'on est mariés. Et ma femme, elle peut vous dire qu'aujourd'hui, il y a encore des choses en moi qui ont besoin d'être changées, qui ont besoin d'être transformées. Il y a des choses qui ont changé, j'espère. Je suis presque certain, il y a des choses qui ont changé pour le mieux. Et il y a des choses qui ont besoin d'être encore changées. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu en moi. C'est l'œuvre de Dieu en vous aussi. Nous, on a été créés pour une raison. On a été créés pour une raison de connaître Dieu, d'être proche de lui. Mais sans Jésus dans nos vies aujourd'hui, on n'est pas proche de lui. On n'est pas capable de connaître Dieu sans Jésus. Mais avec Jésus, nous devenons son temple. Son temple qu'il est en train d'édifier, de construire. On devient une habitation pour l'Esprit. Et dans notre état naturel, l'état naturel de l'homme, il n'arrive pas à comprendre cette idée qu'on est l'habitation de Dieu en esprit. Mais avec Jésus, c'est possible. Rien n'est impossible. Donc, Pierre nous met à le défi de nous laisser édifier, de devenir ce temple que Dieu veut qu'on devienne, et de former une maison spirituelle. Et ça a beaucoup d'implications pour nous. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre temple. On ne peut pas, et c'est souvent dans le Nouveau Testament, quand il parle de le temple de Dieu, c'est dans ce contexte-là qu'il dit, Dieu dit aux chrétiens, vous êtes un temple, l'Esprit de Dieu habite en vous, vous ne pouvez pas être joint avec des non-croyants, vous ne pouvez pas avoir communion avec des idoles, etc., etc. C'est dans ce contexte-là que c'est souvent utilisé. Alors, on est le temple de Dieu. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ce temple, physiquement et spirituellement. On est une construction faite par Dieu, pour Dieu. Donc nous formons une maison. Et dans ce maison, dans ce texte, on voit qu'il nous appelle donc un groupe de prêtres saints. Vous êtes des prêtres saints pour Dieu. C'est quoi un prêtre? Le prêtre, c'était quelqu'un qui était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. C'est le prêtre qui connaissait tous les sacrifices. Il connaissait la loi. Il connaissait toutes les écritures. C'est eux qui faisaient les sacrifices pour le peuple, qui permettaient au peuple de s'approcher à Dieu. Donc c'était le rôle du prêtre. Et là maintenant, nous, Pierre nous appelle un groupe de prêtres. Donc c'est encore, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le fait d'être un temple, on ne peut pas faire n'importe quoi. De nouveau, cette idée d'être prêtre, ça nous met à l'édifice. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est le prêtre. C'était un des axes de la réforme, que c'était plus juste un homme qui était le prêtre et tout le monde devait aller à le prêtre pour confesser et pour entendre la parole, pour avoir la parole expliquée, tout ça. Non, cette chose dans la réforme qui disait que chacun de nous est un prêtre, donc chacun de nous est responsable de notre relation avec Dieu. Chacun est responsable de se former et de prendre en main sa vie spirituelle. C'est chacun qui est le prêtre devant Dieu. Dieu a choisi Aaron, le frère de Moïse, comme le premier prêtre, et puis ses fils après lui. Ils étaient consacrés pour ce travail, ce ministère. Ils étaient mis à part. Personne d'autre avait le droit d'entrer. Les Israélites pouvaient entrer dans le temple jusqu'à un certain point, et après ce point, dans le temple, ils n'avaient plus le droit, et c'était que le prêtre qui avait le droit de s'approcher à Dieu. C'est eux qui connaissaient les rites, les sacrifices, la loi de Dieu. Et c'était eux, une fois par an, qui, le jour des expiations, ils faisaient un sacrifice, ils prenaient le sang, ils allaient derrière le rideau, le prêtre allait derrière le rideau, ils offraient le sang, ils mettaient le sang sur l'autel et différentes choses. Mais c'est une fois par année que le prêtre avait le droit de faire ça, et après ils sortaient. Et c'était tout un rite, mais c'était pour l'expiation des péchés. C'était le prêtre qui avait le droit de faire ça, c'était pas n'importe qui, c'était même pas plus tard le roi qui avait le droit de faire ça. Non, c'était que le prêtre. Et en fait, le prêtre était presque comme un roi parmi le peuple. Et nous, sauf si vous avez des sangs juifs en vous, nous on était exclus de tout ça. On n'avait même pas accès à l'intérieur du temple. On ne pouvait même pas offrir un pigeon sur l'autel. On n'avait pas le droit. C'était d'abord que les Israélites et après que les prêtres. Donc nous, on était loin. On était loin de tout ça. Mais à travers de Jésus, Jésus aujourd'hui nous a fait aussi des prêtres devant Dieu. On était loin, on était séparés, On était condamnés. Déjà parce qu'on ne faisait pas partie du peuple, mais encore plus à cause de nos péchés, on est sous la condamnation de Dieu. On est séparés de tout ça. Mais à travers de Jésus, on est maintenant comme des prêtres devant Dieu. Et en fait, ça c'est le troisième point. J'avais dit d'abord qu'on doit s'approcher à Dieu. Et après, j'ai dit, laissez-vous être construit par Dieu. Et le troisième point, c'est d'être au service de Dieu. Et ça, c'est le rôle de prêtre, d'être au service de Dieu. Donc, de vivre dans ce contexte hostile, c'est aussi de servir Dieu, de continuer à servir Dieu. Et c'est en servant Dieu qu'on expérimente la présence de Dieu dans nos vies. Il y a une phrase d'un prédicateur. Je pense à ça, il y a une phrase d'un prédicateur aux États-Unis qui a dit, si vous voulez expérimenter la puissance de Dieu dans vos vies, faire des disciples. Si vous voulez expérimenter la puissance de Dieu dans vos vies, faire des disciples, servir Dieu, faire des disciples, aller rencontrer les gens, dire aux gens comment connaître Christ dans leur vie et puis aidez-les à devenir aussi des chrétiens et de suivre Christ. Et c'est comme ça qu'on expérimente vraiment la présence de Dieu dans nos vies lorsqu'on est à son service de travailler pour lui, que ce soit de faire des disciples, comme je viens de dire, ou de servir dans l'Église, de prendre nos dons qu'on a tous et de les mettre à l'œuvre dans l'Église. Et les prêtres, c'était leur rôle de faire marcher le temple avec les Lévites qui venaient aussi pour leur aider. Mais c'était le rôle de prêtre qui faisait marcher tout ce qui était dans le temple et pour que les gens rencontrent Dieu. Et de même, nous, en tant que pierre vivante dans l'Église aujourd'hui, on a besoin de faire ça. Ce n'est pas que Pierre et Nancy qui sont la couple pastorale qui peut tout faire. Et s'il fait tout, qu'il fasse tout, ils vont être crevés bientôt. et on ne veut pas ça. Non, il faut que nous tous, quand on prend le temps et on prend nos rôles et nos responsabilités dans l'Église, de servir dans l'Église, cette Église physique déjà, pour que ça soit bien ici, mais aussi dans le corps de Christ spirituel, qu'en tant qu'édifice, le corps de Christ, que ça fonctionne correctement. C'est lorsque chacun de nous prend notre part dans tout ça que ça marche bien. Alors, nous qui étions autrefois loin de Dieu, il dit, aujourd'hui nous pouvons nous approcher à Dieu. On était extérieur du camp même. Et maintenant, aujourd'hui, on est appelé prêtre devant Dieu. Et c'est à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, d'abord, qui a payé le prix pour nos péchés, que nous devenons aujourd'hui des prêtres devant Dieu. Donc, les chrétiens du premier siècle, surtout à ce moment-là, étaient face à une société adverse. Ce que les chrétiens appelaient bien, la société appelait mal. Ce que la société appelait mal, les chrétiens, souvent, ils appelaient bien. Le monde était envers. Ça semble comme aujourd'hui, des fois. Hein? Sous Néron, ils ont subi un barbarisme énorme. Quand tu lis les textes, tape Néron sur Google et lit les textes de ce que ça décrit sur le règne de Néron et comment il a persécuté l'Église, les choses qu'il a fait, c'est terrible, je ne peux pas imaginer. C'est pire que ce qu'on entend aujourd'hui de ce qui se passe en Moyen-Orient. Et on espère qu'il ne lit pas l'histoire, parce que s'il lit l'histoire, il va répéter ce qu'il lit de premier siècle aujourd'hui. Mais dans ce contexte, Pierre dit, pour vivre votre foi, pour être un chrétien, pour être plus que juste, pour ne pas être invisible dans la société, je dirais, approchez-vous à Christ. Vous étiez loin. Venez vers lui. Vous pouvez être proche. Vous devez cultiver cette relation avec Jésus tous les jours. Et c'est en cultivant cette relation avec Jésus que vous êtes transformé. Et c'est continuellement, c'est pas une fois, c'est continuellement. Donc, approchez-vous, soyez proche de lui. Après, il dit, être construit. Laissez-vous édifier par Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire de notre foi. Et avec lui, en tant que pierre angulaire, l'édifice va être droit et il va être à plan. Si Jésus n'est pas la pierre angulaire, nous allons être formés ni droit ni d'aplomb. Si c'est autre chose dans nos vies. Mais c'est lorsque nous sommes proches de lui que nous sommes transformés. C'est lui le moyen d'être transformé. Et c'est lui le centre aussi de la transformation, de la construction. Et le troisième point, c'est être au service de Dieu. C'est bien d'être transformé, c'est bien d'être proche de lui. Mais si on n'a que ça dans nos vies, si je le garde que pour moi, ça ne sert à rien. Presque. Être au service de lui, c'est de mettre tout ça en motion. Ou on va d'être le consommateur des choses à un participant à la vie avec Jésus. Les réformateurs, ils ont dit, le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui sans cesse. Et c'est lorsque on met tout ça en service vers Dieu qu'on glorifie Dieu. C'est pas en me restant dans mon petit coin que je mets ça en service. Et c'est pas comme ça que je glorifie Dieu. Je suis, en tant que prêtre devant Dieu, je suis responsable moi-même, pour ma santé spirituelle. Je prends le temps, je me nourris, j'apprends de l'écriture, je l'étudie et je le laisse me transformer. Et cette transformation, ça fait partie de notre consécration pour Dieu. Donc ça, c'est la clé de vivre dans un monde hostile. Proche, formé et consacré. On était tous comme des brebis égarés, loin de Dieu. Donc le premier pas pour nous, c'est que si on n'a pas repenti de nos péchés devant Dieu, ça c'est le premier pas. De repentir de mon état de pécheur et d'accepter le sacrifice unique de Jésus qui me rend pur devant Dieu. Et si je fais ça déjà, mais que dernièrement, j'avais pas la tendance de m'approcher de Christ dans ma vie, si je ne mettais pas ça en pratique, la deuxième chose, c'est de repentir, d'être éloigné de lui et de, on peut dire, réconsacrer ma vie en repentant de mes péchés, de me réconsacrer à Dieu et de m'approcher de nouveau à lui. Mais dans les deux cas, c'est la repentance en premier. Que Jésus devient le Sauveur, et pas seulement le Sauveur, mais aussi le Seigneur de ma vie. Parce que c'est lorsqu'on ne prend que comme Sauveur, comme un peu assurance de feu dans nos vies, qu'on n'est pas en train de s'approcher à Jésus. On laisse une certaine distance entre nous. Oui, il nous sauve, mais il n'est pas le Seigneur, il n'est pas le Maître. Et ça, c'est le défi, de le laisser être le maître de ma vie. Donc, soyons tous des disciples proches, en formation continue et consacrés à Jésus. Proches, formés et consacrés. Amen. Prions. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Oui, tu es mort, mais le tombeau n'a pas pu contenir qui tu es. Et tu as fait exploser le mort. Et tu as vaincu le mort. Et aujourd'hui, tu es vivante et vivant et tu n'es pas simplement vivant, mais tu es assis au doigt de Père et tu règnes sur toutes choses et tu règnes dans ma vie. Et avec mes faibles mots, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Et merci parce que tu es vivant en moi. Seigneur, aide-nous de marcher près de toi. Saint-Esprit, éveille nos cœurs pour toi, notre amour pour toi, que notre amour pour toi ça soit comme l'amour qu'on a pour notre fiancé. Seigneur, qu'on a de passion pour toi, qu'on est passionné pour toi au-delà de toute autre chose. Et que cette église, ton église, soit ce temple, un temple vivant, un témoin au monde de qui tu es. Et tout ce que tu peux faire dans nos vies. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen.